Alors bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 16 novembre 2022, un très 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 beau mercredi 16 novembre 2022, puisque comme vous savez, la région de Montréal, en tout cas pour ceux qui sont sur Montréal, on a quelques centimètres qui vont tombé au niveau de la neige. Donc ça me réjouit énormément et je compatis malgré tout avec tout ce que ce petit tapis blanc peut peiner ou effrayer. Donc on en est là pour environ 5-6 mois occasionnellement avec quelques chutes de neige qu'on espère, en tout cas que j'espère, plus volumineuses dans quelques temps, bien entendu. Donc aujourd'hui, on continue notre étude sur Hébreux au chapitre 11, le verset 32 qu'on étudie depuis quelques semaines. On a étudié le chapitre au complet, ce qu'on appelle le chapitre des héros de la foi, pour d'autres qui sont plus familiers avec la terminologie sportive, on appellerait ça le temple de la renommée des héros de la foi. Donc, le personnage qu'on voit cette semaine, c'est Samuel, qu'on a débuté hier et qu'on poursuivra à travers l'étude d'aujourd'hui et celle de demain. Le passage connexe se trouve dans 1 Samuel au chapitre 3, du verset 1 au verset 21. On aurait pu prendre d'autres histoires, mais de façon tout à fait délibérée, je me suis limité à cette première rencontre de l'Éternel avec Samuel. Donc dans 1 Samuel 3, du verset 1 au verset 21, qu'on aura l'occasion de lire, bien entendu, dans quelques instants. Alors si vous voulez, on va débuter, on va prier, après quoi nous ferons les deux lectures du jour et on continuera l'étude entreprise ou initiée hier. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole en cette première journée d'hiver, puisque ici il y a de la neige. Donc merci de nous rassembler en dépit des saisons qui changent, en dépit des époques qui peuvent se succéder. Nous savons que chez toi il n'y a pas l'ombre d'un changement. Tu es notre refuge, notre source d'inspiration, notre guide et celui qui nous donne les directives et la direction pour nos vies tout au long de notre existence ici-bas sur Terre. Alors merci Seigneur d'être avec nous. Merci de prendre ce temps pour nous instruire, pour nous parler, pour nous transformer. Je prie que ces quelques moments que nous passons ensemble soient profitables pour tous et chacun, et tous ceux qui pourraient même écouter cet enseignement plus tard, en journée ou dans l'avenir, qu'une même grâce, qu'une même onction puisse aussi accompagner l'écoute de ce message en différé. En toute chose, nous prions que tu sois présent, que tu nous donnes tout ce que tu as à nous donner, tout ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Et nous voulons te remettre toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance à toi. Et strictement qu'à toi, et nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur que tu es, Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alors je lis pour vous dans Hébreux 11, le verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Et aujourd'hui, bien entendu, comme hier, on étudie le personnage de Samuel. Je vous ramène maintenant dans 1 Samuel au chapitre 3 et je vais lire pour vous des versets 1 au verset 21. 1 Samuel 3, du verset 1 à 21, la Bible nous dit: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici. Et il courut vers Élie et dit: Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que l'Éternel te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors hier, on a vu les trois premiers versets dans lesquels on a fait ressortir quatre points importants. Premièrement, qu'en raison de notre foi, nous sommes et nous demeurons serviteurs. Deuxièmement, en raison de ma foi, je me soumets à la couverture que Dieu place sur moi au niveau d'un aîné dans la foi, de quelqu'un qui est plus avancé, plus expérimenté que moi dans la foi. En raison de ma foi, je suis aussi en constante disponibilité pour servir le Seigneur. Et enfin, en raison de ma foi, je suis en recherche constante de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on va étudier du verset 4 au verset 10, que je reprends pour vous. « Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon enfant. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été adressée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place. Samuel, l'Éternel, vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Premier point qu'on va voir dans le verset 7, on va faire un aller-retour, on va aller du verset 7, puis on retournera dans les versets 4 à 6, puis on terminera avec le verset 9 et 10, mais c'est simplement pour que la compréhension soit plus facile. Au verset 7, la Bible nous dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Le terme « connaître » en hébreu, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, et je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui nous regardent pour une première fois, la Bible est constituée de deux sections. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est depuis la création du monde jusqu'à l'époque du dernier prophète, environ 400 ans avant Jean-Baptiste et avant Jésus, bien entendu. Le deuxième groupe, c'est donc depuis l'annonce de la naissance de Jésus, donc depuis les semaines ou les mois qui précèdent l'arrivée de Jésus, jusqu'à l'Apocalypse. Donc c'est en fait l'histoire de l'humanité dans son ensemble qui est partagée en deux gros volumes, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est principalement écrit en hébreu, le Nouveau Testament est principalement écrit en grec avec quelques apartés, notamment avec le livre aux Hébreux qui est écrit en araméen. Mais principalement, le Nouveau Testament est donc écrit en grec. Aujourd'hui, comme on regarde un texte de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, les termes qu'on partage ce matin sont donc en hébreu. Alors, le verset 7 nous dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel ». Connaître, c'est le terme « yada » qu'on a déjà vu à quelques reprises dans nos bénédictions matinales. « Yada » Y-A-D-A. Je répète, « connaître » yada » Y-A-D-A. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Connaître ou yada veut dire distinguer, percevoir et apprendre à connaître. Ce n'est pas juste le fait de savoir une chose, mais c'est le fait de développer notre savoir par rapport à une chose. Lorsqu'on distingue quelque chose, c'est qu'au départ, il y a un moment où les choses nous sont comme confuses, obscures, impénétrables, et à un moment donné, parce qu'on y jette un œil plus long, parce qu'on examine la chose de façon plus approfondie, on en vient à distinguer les particularités, les formes, l'apparence, la constitution de cette chose. Alors ici, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est comme si on nous explique que Samuel est au tout début de ses rencontres avec le Seigneur. Et bien entendu, c'est la première fois où Dieu se révèle à Samuel avec le temps, avec l'expérience, avec les faits qui vont se reproduire à plusieurs reprises dans la vie de son serviteur. Samuel, on va finir par accoter ou accoler plutôt à Samuel le titre de prophète de l'Éternel, mais à ce moment-ci, ce n'est qu'un enfant qui a été placé en pension chez Élie le sacrificateur afin qu'il serve le dit sacrificateur et qu'il serve aussi l'Éternel. On se rend compte dans le texte qu'on a lu tout à l'heure que Samuel est en charge notamment de prendre soin de la lampe pour qu'elle continue à brûler, donc de la raviver, de remplir la réserve d'huile pour la lampe. De surcroît cela, c'est lui qui ferme, qui ouvre les portes du temple pour que les gens viennent à la maison de l'Éternel. Mais malgré tout, Samuel, cet enfant qui est initié dans ce passage à la voix de l'Éternel, initié à une conversation et à la présence de Dieu, ici, ne connaît pas encore l'Éternel. En raison de sa foi, un croyant devrait rester dans l'attitude de Samuel. Samuel va devenir un très grand prophète, probablement un des plus grands dans l'histoire d'Israël. En tout cas, c'est celui auquel le peuple juif, encore aujourd'hui, se réfère le plus. Bien entendu, il y en a d'autres grands, des Isaïe, des Jérémie, des Ézéchiel, qui ont marqué leur époque. Mais Samuel était comme un précurseur et quelqu'un qui a donc ouvert le chemin pour les autres prophètes qui allaient suivre après lui. Mais Samuel est resté toute sa vie à l'écoute de l'Éternel, et Samuel est toujours dépeint comme cet enfant qui apprend à connaître la voix de l'Éternel. En raison de ma foi, je considère que j'ai besoin toujours de connaître davantage mon Seigneur. Il est important pour toi et pour moi de rester dans cette attitude d'apprentissage, dans cette attitude où je comprends qu'il m'est nécessaire de connaître davantage. Et je répète, rester dans cet état où je reconnais que j'ai besoin de connaître davantage mon Seigneur. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a certains croyants qui, après un certain nombre d'années de conversion, qui, après un certain parcours, rempli d'expérience assurément, en viennent à une attitude qui est un peu comme je connais. Je connais ce que j'ai à connaître. Je connais ce qui est ce que les autres ne connaissent pas. Et ils en viennent à cet état un peu où ils ne sont plus dans cette tournure de cœur, dans cette disposition pour continuer à apprendre et continuer à découvrir. Comprenons une chose. Aucun d'entre nous ne connaît totalement. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, on ne voit que comme flou. Un peu comme dans un miroir à l'époque. Aujourd'hui, on a des miroirs qui sont même des miroirs qui grossissent. Vous avez un bouton sur le nez, vous vous approchez du miroir et ce bouton-là apparaît de façon magistrale. Vous avez un ride et parce que le miroir grossit les choses qu'il reflète, votre ride qui fait 2 cm dans le miroir en fait déjà 6. À l'époque, le miroir n'était pas comme cela. Et c'est Paul qui va faire cette analogie avec le miroir et notre connaissance de Dieu. Il va dire, on est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Mais le miroir de l'époque était un miroir qui était fait en mercure et qui n'avait pas la clarté de l'image d'aujourd'hui. On voyait plus ou moins une apparence. On voyait plus ou moins une force, une forme. On arrivait à conclure qu'effectivement, la personne qui était devant le miroir, c'était nous. Mais l'image que le miroir reflétait n'était pas parfaite. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne saisissons qu'imparfaitement, que partiellement. Que toute la connaissance nous sera révélée simplement lorsque nous serons là-haut. Alors avoir cette attitude de croire que nous connaissons déjà, que nous connaissons suffisamment, ça voudrait dire que nous avons maîtrisé un sujet. Peut-on vraiment prétendre aujourd'hui que nous maîtrisons le sujet que pourrait être Dieu? Maîtriser un sujet, c'est dominer un sujet. On parle d'experts dans différents domaines, on parle de gens qui vont au doctorat, d'études pour différents sujets, et ils deviennent des docteurs en telle ou telle matière, donc des experts en telle ou telle matière. Il y a une seule matière où aucun d'entre nous ne pouvons ou ne peut connaître l'absolue totalité de la chose et de la matière, c'est lorsqu'on parle de Dieu. On pourrait venir à comprendre tout à propos d'une chose particulière, mais concernant Dieu, il est impossible de ce côté-ci de l'éternité de comprendre toute chose. Ce n'est simplement que là-haut que nous comprendrons toute chose nous sera révélée, que toute chose nous sera acquise intellectuellement et au niveau de la compréhension. D'ici là, je dois rester dans cette attitude humble, dans cette attitude de sincérité et dans la réalité de mon état dans lequel je confesse que je ne connais pas tout concernant Dieu, mais je reste dans cette attitude de vouloir, de désirer connaître davantage notre Seigneur. Et sachant que c'est insidieux, parfois on a un certain cheminement avec le Seigneur, et à un moment donné, quand on se compare à ce qu'on était avant, on se dit « Ah, je comprends déjà pas mal plus ». Lorsqu'on se compare peut-être avec des gens qui ont moins d'expérience, qui ont peut-être tardé dans leur formation ou dans leur développement spirituel, on regarde d'autres et on se dit « Ah, mais comparativement à lui ou à elle, je suis déjà bien avancé ». Tu es peut-être plus avancé que quelqu'un, mais tu n'es assurément pas au point où tu peux te permettre de ne plus aspirer à connaître davantage. De surcroît à cela, si on comprend réellement qui est notre Dieu, si on comprend réellement combien grand, combien puissant, combien majestueux, combien merveilleux il est, on serait tout à fait insensé de ne pas chercher à le connaître davantage. Si je comprends minimalement au moins qu'il est absolument indescriptible, qu'il est absolument merveilleux, qu'il est totalement et de façon insoupçonnable, grand mais plus grand que l'univers même, si je me mets à contempler qui il est, je devrais avoir cette faim, je devrais cultiver cette faim de le connaître davantage. Donc Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel était dans l'apprentissage de la connaissance de Dieu, et nous devons aussi, nous, en raison de notre foi, en raison de cette foi que nous proclamons avoir, je devrais me considérer comme ayant besoin de toujours connaître davantage le Seigneur. Le verset 7 continue en disant « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » La parole de l'Éternel, le Logos de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. Le terme révélé, c'est le terme Galach. Galach, G-A-L-A-H. Je répète, révélé, Galach, G-A-L-A-H, qui veut dire découvrir, mettre à nu une chose, faire connaître ou enseigner. Tout à l'heure, on disait, il y a quelques instants, que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pour nous, c'était un appel à rester dans cette attitude de toujours vouloir davantage connaître le Seigneur, de comprendre qu'on a besoin de le découvrir à chaque jour davantage. Un des synonymes, au-delà tout simplement de reconnaître que je ne connais pas assez, c'est aussi désirer connaître davantage et se disposer pour apprendre davantage. Je dis parfois que si un élève ne veut pas apprendre, on aurait beau avoir le meilleur enseignant ici-bas sur Terre, si je me dispose à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de moi pour ne pas apprendre, je n'apprendrai pas. Si je ne me dispose pas à apprendre, je ne pourrai pas apprendre. En bon québécois, et je ne sais pas si le terme existe, mais je l'utilise régulièrement pour que ce soit clair dans nos pensées et dans ma façon de m'exprimer, en raison de ma foi, je dois rester, je dois être enseignable. Grande question pour toi et pour moi. Sommes-nous encore aujourd'hui? Peut-être que ça fait un certain nombre d'années que tu chemines avec Dieu. Peut-être que ça fait un certain nombre d'années que tu as reconnu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Mais la question pour toi, es-tu encore aujourd'hui enseignable? Parfois, on est enseignable dans les premiers temps, dans les premiers moments, dans les premières expériences. Et à un moment donné, on se dit, ben, j'ai assez appris. Samuel va rester enseignable. Il va être dans cette disposition où il peut apprendre. Il n'est pas venu voir Élie Élie qui lui dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, à trois reprises. Il n'est pas venu à voir Élie en disant, hey, je sais que c'est toi là. Arrête, change de disque, arrête de blaguer avec moi. Je sais que c'est toi. Quand Élie lui dit, regarde, retourne te coucher cette quatrième fois. Et si effectivement la voix t'appelle encore, voici ce que tu devras faire. Tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et que s'est-il passé lorsque, effectivement, Dieu est venu et Dieu l'a rappelé encore une fois ou l'a appelé de nouveau une quatrième fois? Qu'est-ce qu'a fait Samuel? Il a prononcé les phrases qu'il avait apprises ou la phrase qu'il avait apprise de son maître Élie. Et il s'est tourné vers l'Éternel en disant, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel était donc dans cette disposition intrinsèque, dans cette disposition intérieure où il pouvait être enseignable. Mon frère, ma sœur, mon ami, j'espère que tu restes, que tu demeures enseignable. Je me le dis à moi-même, Florent, tu dois rester enseignable. Peu importe que l'on enseigne à d'autres, nous devons rester nous aussi avec l'attitude de l'élève, de l'étudiant. Je vous rappellerai, comme on l'a fait à plusieurs reprises à travers les dernières semaines, dont les prédications du dimanche matin que j'ai eu l'occasion d'apporter tout au long du mois d'octobre. Nous sommes à la base et nous demeurons pour toujours des disciples. Et des disciples, c'est fondamentalement des élèves d'un maître, des apprentis auprès d'un maître, des étudiants auprès de quelqu'un qui connaît davantage. Donc, si toi et moi, nous sommes appelés à être des disciples, c'est donc que nous devons cultiver chez nous cette attitude de rester enseignable. C'est malheureux de voir des gens qui se mettent en porte-à-faux par rapport à leurs dirigeants, par rapport aux pasteurs que Dieu leur donne et qui prétendent en savoir davantage, qui ont cette attitude orgueilleuse de ne plus être enseignable, de ne plus être corrigible, de ne plus être à même d'être remanié, d'être formaté par l'enseignement de la parole de Dieu. Très souvent, c'est que l'orgueil est rentré. Très souvent, c'est que c'est une décision de ne plus rester dans cet état où nous sommes enseignables. Jadis, oui. Enfant, oui. Jeune, oui. Mais maintenant que nous croyons être parvenus à un certain niveau, l'orgueil se saisit de nous, la fierté se saisit de nous et nous stoppons le cours de l'enseignement, le cours de la formation, le cours de la pédagogie que Dieu veut nous octroyer ou insuffler en nous. Donc, en raison de ma foi, je suis et je demeure enseignable. Retournons au verset 4 à 6, et là on voit à plusieurs reprises Samuel qui se lève et qui va vers Élie en disant « me voici car tu m'as appelé, me voici car tu m'as appelé ». À trois reprises, trois reprises, Samuel court vers Élie en disant « mais me voici car tu m'as appelé ». Le terme « appelé », c'est le terme « kara ». Encore là, un terme qu'on a vu à plusieurs reprises et qui m'est cher, un terme que j'aime beaucoup. On ne rentrera pas dans tous les détails. Vous êtes déjà, je crois, à même de vous rappeler les enseignements sur ce terme « kara ». « Kara », Q-A-R-A, pour « appeler ».« Me voici, car tu m'as appelé, kara ».« Kara » veut dire « sommer ». Interpeller, requérir l'attention de quelqu'un, invoquer le nom de quelqu'un. Donc Samuel se présente en disant « Hey, tu m'as sommé de venir, tu m'as interpellé, tu as requis mon attention, tu m'as demandé de venir, moi précisément, moi auprès de toi. » L'enseignement pour nous, c'est que Samuel, en raison de sa foi, répondait favorablement et promptement à l'appel. La question pour toi et pour moi est à savoir, est-ce que le Seigneur est obligé de nous tirer l'oreille régulièrement pour que nous nous soumettions à sa parole? Le Seigneur est-il obligé de nous tirer l'oreille régulièrement pour que nous répondions favorablement à Dieu? Vous savez tous qu'à un moment donné dans ma vie, lorsque j'étais en guerre avec le Seigneur, voire en guerre forte avec le Seigneur, j'avais dit, si Dieu veut m'utiliser, il va devoir se battre avec moi. Et j'ai effectivement tourné dos à Dieu et il a été obligé de me tirer l'oreille. Pendant environ un an et demi, tout d'abord, on venait me voir aux 6 mois avec quelqu'un qui me disait, Florent, je sens dans mon cœur de te dire que Dieu veut t'utiliser. Puis ça venait aux 3 mois, puis ça venait aux mois, puis ça venait aux 2 semaines, puis ça venait aux semaines. Et plus le rythme avançait, plus effectivement les gens venaient me dire, Florent, je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois qu'on me disait monsieur ou qu'on me disait jeune homme, j'étais relativement jeune à l'époque, j'avais environ 16 ans, à chaque fois qu'on venait me dire et qu'on commençait une phrase en disant, ou une conversation en disant jeune homme, je ne sais pas pourquoi, mais je sens de vous dire, c'était tout le temps cette même formulation, je savais ce qu'était la suite. Et en fait, c'était Dieu qui me rappelait qu'il m'avait appelé et qu'il me demandait de le servir. Et moi, je faisais la sourde oreille, je lui tournais le dos et je résistais. Samuel n'a pas été dans cette attitude-là. Il avait été donné par ses parents, particulièrement par sa mère Anne, pour tenir une promesse qu'elle avait faite à l'Éternel. Elle avait amené Samuel, maintenant sevré et maintenant un jeune garçon, pour qu'il puisse apprendre à servir l'Éternel et qu'il puisse servir l'Éternel dans la maison de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Et à chaque fois qu'Élie l'appelle, il se lève et il y va. Il répondait promptement et favorablement. Adieu, assurément, puisqu'il était là disposé à servir, mais aussi aux hommes que Dieu avait placés comme autorité dans sa vie. Samuel ne pouvait pas improviser le service dans le temple. Samuel ne pouvait pas décider, voici ce que je vais faire, même si on m'a demandé de faire autre chose. Samuel faisait ce qu'on lui avait demandé, parce qu'il avait foi et parce qu'il connaissait l'état de cœur qu'il devait avoir et démontrer une attitude qui répond donc favorablement et promptement. Est-ce que tu es têtu face à Dieu? Est-ce que je suis têtu par rapport à ce que Dieu demande de moi? Ou est-ce que je me soumets rapidement, de façon délibérée, consciente et instantanée? Quel est le laps de temps qui s'écoule entre voici ce que Dieu te demande et toi qui mets la chose en action? Par notre foi, ou en raison de notre foi, nous devrions répondre favorablement et promptement à Dieu. Dernier point dans les versets 9 et 10 aujourd'hui. Il dit à Samuel, c'est Élie qui parle à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Le terme parler, c'est le terme dabar. Dabar. Dabar, parler, Dabar, pour ceux qui prennent des notes, qui veut dire déclarer, proclamer, qui veut dire donner ou transmettre un oracle. Écouter, le terme shama, shama, écouter, shama, shama, qui veut dire percevoir, comprendre, mais qui pousse plus loin. On peut parfois entendre la voix de Dieu, mais faire fi de celle-ci. On peut parfois percevoir la voix de Dieu, mais faire fi. Dans le mot qui est utilisé ici, écouter, il y a non seulement le fait d'entendre cette voix, mais aussi de répondre, d'obéir, de saisir, d'accomplir. Foncièrement, ce que ce verset nous enseigne et cette phrase, parle car ton serviteur écoute, c'est que en raison de notre foi, lorsque Dieu me parle, j'écoute et je mets en pratique. Dans la terminologie hébraïque, il n'y avait pas de distinction entre entendre et accomplir. Si tu entendais, tu devais donc accomplir. Il y avait comme quelque chose qui était pris pour acquis. Si effectivement Dieu te parle, logiquement, tu vas non seulement l'entendre, mais tu vas l'accomplir. Combien il est triste à notre époque de savoir que Dieu parle encore, mais que plusieurs d'entre nous le faisons languir. Que Dieu parle, mais qu'on prend un certain temps pour obéir. Dieu parle, mais on remet la chose à demain. Dieu demande, mais on dit « Oui, éventuellement, je le ferai, Seigneur. » Dans la pensée biblique, dans la pensée judaïque, c'était « J'entends, j'accomplis. » Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous sommes des serviteurs. Nous avons été créés pour servir l'Éternel. Lorsque vous êtes le patron d'une compagnie, si vous demandez à votre employé de faire une chose, vous vous attendez à ce que l'employé fasse la chose là, pas dans un mois, pendant deux ans, pas éventuellement lorsqu'il en aura envie. Si vous dites « j'ai besoin que tu ailles me chercher tel objet ou tel outil dans telle pièce », tu le dis une fois. Tu t'attends à ce que l'employé aille dans la pièce en question, chercher l'outil et te la ramène. Malheureusement, avec Dieu, nous devons l'admettre, on n'a pas toujours cette disposition. Et parfois, il répète, et il répète, et il répète, tout simplement parce que nous sommes désobéissants. Soyons clairs dans les termes. Si je n'obéis pas tout de suite, c'est donc que pendant un certain temps, je suis désobéissant. Si Dieu me demande de faire une chose et que je tarde à faire la chose, éventuellement peut-être que je l'accomplis et à ce moment-là, je deviens obéissant, mais entre le moment où il me dit de faire et le moment où je fais la chose, entre ces temps-là, s'il y a un laps de temps qui s'écoule, ça veut donc dire que pendant un certain temps, j'ai été désobéissant. Dieu me dit « va à tel endroit » et je dis « je n'y vais pas » ou « je n'y vais pas tout de suite » ou « j'irai simplement quand les choses seront plus favorables » ou « j'irai lorsque j'aurai pris du temps avant cela pour moi » durant tout ce laps de temps qui s'écoule entre « Dieu me dit de faire une chose et j'accomplis la chose », pendant tout ce temps-là, soyons concrets dans notre définition, nous sommes désobéissants. L'obéissance du serviteur se manifeste de façon spontanée, de façon instantané. Dieu dit et j'accomplis la chose. Quel type de serviteur sommes-nous aujourd'hui? Et je le dirai encore plus personnellement, quel type de serviteur, quelle sorte de serviteur es-tu aujourd'hui? Quelle sorte de serviteur suis-je aujourd'hui? Alors, quatre points que nous avons vus. Premièrement, en raison de ma foi, je considère que j'ai besoin de toujours connaître davantage mon Seigneur. Je reconnais mon besoin de le connaître davantage. Deuxième point, en raison de ma foi, je suis et je demeure enseignable. Je reconnais que j'ai besoin de connaître davantage et je reste dans cette disposition favorable à l'apprentissage. Troisième point, en raison de ma foi, je réponds favorablement et promptement à Dieu. Je ne le laisse pas languir, je ne le laisse pas attendre, je réponds favorablement à ce qu'il me demande et promptement. En raison de ma foi, lorsque Dieu parle, j'écoute et j'accomplis. Lorsque Dieu parle, j'écoute. Mais je ne me limite pas simplement à entendre. J'accomplis ce qu'il me demande. Alors, prions. Merci Seigneur encore pour ce rappel important sur La vie du serviteur. La vie de celui qui se dit serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être serviteurs et ne pas accomplir ta volonté. Nous ne pouvons pas prétendre être serviteurs et ne pas faire les choses comme tu le demandes ou quand tu les demandes. Nous ne pouvons pas nous déclarer serviteurs et dire je ferai la chose quand j'en aurai envie, quand les choses s'y prêteront mieux, quand j'aurai obtenu autre chose avant. Non, le serviteur fait parce que le maître a demandé. Alors je prie, Seigneur, que cette attitude se développe en moi, que je reste dans l'humilité en sachant que je ne connais pas tout à ton sujet et que je suis dans un mode d'apprentissage, mais aussi dans une attitude favorable à l'apprentissage. En fait, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi si je deviens maintenant difficilement enseignable. Je prie, Seigneur, aussi de répondre favorablement et promptement à tes demandes, de ne pas te laisser attendre, de ne pas tarder, mais de répondre. Et je prie, Seigneur, que lorsque tu parles, je puisse non seulement entendre, comprendre, saisir, mais aussi accomplir. Que je ne fasse pas une distinction en me targuant d'avoir au moins entendu, d'avoir au moins compris. Seigneur, que cela me pousse à agir. Que ma compréhension de ce que tu me dis me pousse à agir. Et que je ne puisse pas être en repos à moins d'accomplir ce que tu demandes de moi. Je ne peux prier que pour moi en cette manière. Mais, Seigneur, je prie que les paroles qui ont été prononcées ce matin soient arrosées par ton onction, arrosées par ton esprit, afin, Seigneur, qu'elles puissent prendre forme dans la vie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et qu'une nouvelle génération de serviteurs disposés, actifs, qui apprennent, qui restent dans ce mode d'apprentissage, qu'une nouvelle génération de tels serviteurs puisse éclore et avancer et faire avancer ton royaume. Bénis-nous, sois avec nous, donne-nous ces occasions de te servir aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors on est mercredi, il y a étude biblique ce soir, oui c'est en présentiel. On espère que la neige, qui n'est pas très très forte malgré tout, ne vous effraiera pas et que vous serez parmi nous donc ce soir à l'église pour l'étude biblique. Sinon, bien entendu, si vous ne pouvez vous déplacer, l'étude biblique est toujours transmise sur nos différentes plateformes Internet. Alors nous, on se retrouve demain matin pour une autre bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Bonne première journée de neige pour cette période hivernale qui débute. Que Dieu vous bénisse. Soyez de bons serviteurs. Au revoir tout le monde.